Lève-toi et marche. Actes 3:6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ce passage ordonne un mouvement. Mais qui ordonne ce mouvement? C'est la parole de Dieu, c'est Christ. C'est le pouvoir de Dieu qui ordonne. Ce pouvoir est donc la vie. Le mouvement est l'action que le pouvoir, la vie de Dieu, ordonne au corps humain d'exercer. Car Dieu a mis aussi dans le corps humain un mouvement qui doit s'exécuter selon sa volonté. Hébreux 10, versets de 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Ce mouvement est conduit par l'Esprit de Dieu, pour dire que l'autorité de Dieu est donc son Esprit Saint. Pour bien comprendre, il y a le Christ qui est le pouvoir de Dieu, qui est la vie de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit qui est l'autorité de Dieu. Lui conduit le mouvement de la vie de Dieu. Ces deux aspects de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir et le mouvement de Dieu, viennent de Dieu. Par ces aspects de Dieu, font du croyant chrétien, enfant de Dieu, l'être de la race des dieux. Actes 17-28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ces deux aspects sont aussi la sagesse et l'intelligence de Dieu. Job 28-28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Les deux sont aussi la plénitude de la divinité de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut être rempli par ces deux aspects de Dieu. Premièrement, Christ, le pouvoir, la vie, parole de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit, l'autorité, la puissance créatrice, Esprit Saint de Dieu. Tous les deux doivent habiter dans le corps humain. Colossiens 2:9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Christ, la parole proclame, donne l'ordre. Le Saint-Esprit conduit le mouvement dans le corps. Le corps se met en marche, donc se met en œuvre et accomplit ce que le pouvoir Christ avait proclamé. Tout cela s'accomplit dans le corps et produit ce que la volonté de Dieu désire. Le corps a une responsabilité dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu, par Jésus-Christ, a racheté le corps pour que ce corps joue ce rôle pour glorifier Dieu visiblement. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Mais un corps qui n'accomplit pas sa mission de glorifier Dieu, un corps qui reste sourd à la déclaration de la vie et du pouvoir de Dieu Christ, qui empêche l'autorité de s'exprimer, c'est-à-dire qu'il croise les bras, se donne au sommeil, il préfère s'assoupir, ce corps deviendra pauvre. Proverbes 6, 9, 10 et 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Proverbe 20, 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Vous avez entendu la vie, le pouvoir, le Christ, la parole de Dieu, faire une déclaration. Lève-toi et marche. Oui, laisse-toi conduire par le mouvement de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Chaque fois que le Seigneur, Jésus-Christ, s'adressait, il disait « Lève-toi et marche ». Mais si celui qui reçoit cette déclaration ne se lève pas et ne se met pas en marche, le miracle selon la volonté de Dieu ne s'accomplira pas. Le corps qui ne se met pas à l'œuvre met obstruction à la volonté de Dieu. Exode 14, 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrie, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent ?» Ici, les enfants d'Israël, ils pleuraient seulement. Ils se lamentaient seulement. Ils élevaient seulement les mains. Ils criaient seulement. Alors Dieu s'est adressé à Moïse. Pourquoi ces cris, ces pleurs, ces lamentations, ces levées des mains? Ordonne aux enfants d'Israël qu'ils marchent. C'est-à-dire qu'ils se lèvent et se mettent en marche. Cela se passe aujourd'hui. Beaucoup de croyants chrétiens, ils aiment trop pleurer. Ils aiment crier. Ils aiment se lamenter. Ils aiment lever les mains. Ce n'est pas cela que Dieu nous demande. Dieu nous demande de nous lever et de se mettre en marche, c'est-à-dire de se mettre en mouvement. Aujourd'hui, les bâtisseurs des autels ne parlent pas de se lever et marcher. Ils invitent les enfants de Dieu en les groupant dans des endroits qu'on appelle autels, églises, temples de briques, leur privant de se lever et de marcher. Ensuite, ces bâtisseurs les dépouillent. Pour eux, ils aiment voir les enfants de Dieu toujours pauvres. Ils en font des pleureurs, des crieurs. Et pourtant, l'enfant de Dieu est libre. La loi de Jésus-Christ est loi de liberté. Dieu, par Jésus-Christ, n'a pas ordonné le confinement de ses enfants. Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, verset 2, 16 à 18, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui est impurs et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Aujourd'hui, le croyant chrétien est une caisse où habite Dieu. N'oubliez pas que l'enfant de Dieu est lui-même l'arche de l'Éternel. Jean 2, versets 19 et 21. Jésus leur répondit. « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps. Cette révélation d'être l'arche de l'Éternel a été révélée à Abraham, a aussi été révélée par cette construction de l'arche de l'Éternel par Moïse, mais a été annoncée en Ésaïe. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Accompli par Jésus-Christ, Jésus, le Fils de Dieu, était l'arche de l'Éternel, où habitait la plénitude de Dieu vivant, saint et éternel. Donc le croyant chrétien doit être aussi l'arche de l'Éternel vivant, saint et éternel. 1 Pierre 1, 15, 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Aujourd'hui, la majorité des croyants chrétiens attendent, au lieu de se lever et de marcher. Ils attendent que les mains ne tombent, C'est fini les mannes. Les mannes ne tomberont plus. Vous avez tout ce qu'il faut, si on peut dire, pour que vous ayez la manne à gogo. Deutéronome 28, versets de 1 à 7. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Dieu ne dit pas que tu seras béni dans ton sommeil. Dieu n'a pas dit « ne travaille pas ». Dieu n'a pas dit « reste assis et tout tombera du ciel ». Mais par contre, Dieu dit dans 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 15, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous encourage à travailler par nos propres mains, pour ne pas dépendre de qui que ce soit. 2 Thessaloniciens 3, 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Acte 20, versets 33, 34 et 35. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les bâtisseurs des autels, au lieu d'encourager les enfants de Dieu à se lever et de se mettre à l'œuvre, ils les confinent pour bien les dépouiller, pour les rendre encore plus pauvres en les exploitant. Ils ont un esprit de domination et d'assujettissement, un esprit très dangereux. Amis en Christ, nous vous invitons à écouter également sur ce site un enseignement audio dont le titre est « Travailler, encore travailler, toujours travailler ». Les bâtisseurs n'aiment pas travailler par leurs propres mains et ne vous encouragent pas à aller travailler, mais ils sont contents de vous dépouiller. Matthieu 23, verset 14, et après nous prendrons les versets 16 et 17. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites: si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Amis en Christ, soyons des véritables arches de l'Éternel Saint. Soyons Jésus le véritable corps du Christ. Soyons les imitateurs de Dieu à l'exemple du Christ Jésus. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Sortons de ces autels, de ces temples et églises de briques et murs, pour accomplir non la volonté d'un homme, mais celle de Dieu. Actes 17, 24 et 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Demandons à notre Père de nous donner la sagesse, l'intelligence, la vie et le mouvement. Ses préceptes feront de nous des êtres qui appartiennent à la race de Dieu. 2 Corinthiens 6, versets de 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Écoutons cette conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine. Jean 4, versets de 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Abraham n'est pas un bâtisseur des autels, car lui-même était l'arche où habitait Dieu. Genèse 17, 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. D'Abraham, constructeur des autels, à Abraham, lui-même l'arche de l'Éternel. Jésus, l'homme, est devenu Jésus-Christ. Jean 14, versets de 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voici l'accomplissement de la révélation par Abraham. C'est pour cela que nous sommes les enfants d'Abraham. Pas par le sang, l'eau et la chair, mais par la parole et l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire par la croyance, la foi et l'obéissance d'Abraham. Galates 3. Versets de 24 à 29. Ainsi, la foi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous vous invitons, frères et sœurs en Christ, si vous entendez la voix du Christ Jésus, ne perdez pas le temps. Mais levez-vous et mettez-vous en marche, à l'œuvre, c'est-à-dire en mouvement selon la parole. C'est cela glorifier Dieu. Jacques 1, versets 22 et 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà, frères et sœurs en Christ, pour cet enseignement. Levons-nous et marchons selon la volonté de Dieu et non de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Merci.